Alors, bienvenue pour cette session d'atelier Transvision. J'espère que vous n'avez pas la tête comme ça. Moi, je sais que j'ai deux, trois trucs à digérer déjà. Donc, bon, j'empile gentiment les choses et je les prends après au fur et à mesure pour digérer, pour en faire quelque chose dans les jours qui viennent. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses que ça nous dit aussi tous ces temps. On est vraiment très réjouis. Le sujet pour lequel vous êtes décidé dans l'atelier d'aujourd'hui, c'est la question. Tu dissimules là. On peut dire dans ton oreille, voilà, juste pas comme ça.
Je vais mettre un plus petit là.
Peut-être, ouais. Le style de vie de Jésus. J'affirme déjà maintenant, au travers de ce titre, finalement, que Jésus a vécu ce style de vie de disciple, début à la fin de son ministère, peut-être même avant. Le principe d'un atelier, pour moi, c'est tout à fait évident qu'on peut interagir. C'est l'endroit, je travaillais en charpenterie pendant mes vacances durant les études, et puis en atelier, on préparait les charpenteries, et puis après, les charpentes, pardon, et ensuite on allait sur le terrain pour les mettre en place, pour les assembler. Et c'est dans l'atelier qu'on peut encore limer, qu'on peut encore changer, percer un trou supplémentaire, etc. Et c'est là-dedans qu'on est. Donc on est en train de travailler la matière. Et moi je ne suis pas là en train de vous dire que les choses sont telles qu'elles absolues et j'apprécie l'interaction. Donc si vous avez des remarques, des expériences personnelles, c'est vraiment avec plaisir qu'on peut aussi en faire part. Juste, il faudrait que j'arrive jusqu'au bout, sinon vous allez louper évidemment le bouquet final. Et puis, je voudrais commencer par un tout petit brin de témoignage. Le sujet, ce n'est pas moi. Le but de ce témoignage, c'est justement pour pointer sur quelque chose qui va nous être utile pour réfléchir, pour aller de l'avant. Dans la réponse familiale, je viens d'une famille germanophone, dans un quartier germanophone en Suisse romande. Et les pilotes qui ont construit, ils ont choisi les meilleurs petits jolis coins là-bas au Vuilly, et puis ils se sont fait des jolies petites villas. Et moi, j'ai eu le privilège de grandir là-bas, dans un quartier où, effectivement, tout le monde parlait l'allemand. Quand je suis arrivé à l'école enfantine, eh bien, j'ai découvert qu'il existait d'autres langues sur planète Terre. Et c'était la surprise. Mes parents étaient respectueux des choses religieuses, mais pas du tout engagés. D'une manière explicite ou claire, ils pratiquaient du yoga, faisaient des trucs spirituels, quoi. Au niveau de l'enfance, j'ai vécu dans le contexte de mon village, en tant que Suisse allemand, en tant que celui du quartier, des pilotes, etc. Un peu de rejet, voire pas mal de rejet. C'est pas quelque chose qui, sur le moment, m'a je crois, frappé. Par contre, ça a été, je le sais maintenant, par après, pas mal de travail dans ma vie pour ne pas rester là-dedans. C'était mon homme fort, hein. Vous connaissez peut-être ça, pour certains ce sera peut-être la colère, pour d'autres ce sera peut-être la crainte. Pour moi c'était plutôt le fait de lutter avec le rejet sur les barrières identitaires. Petit leader tyrannique de mon quartier, il y a des vidéos qui ont été montrées à notre mariage, des vidéos que j'ai évidemment tout de suite détruites le plus vite possible, où on nous voit patrouiller avec des bâtons comme ça, avec des casquettes. Nos parents pilotes militaires, ils avaient des casquettes, des trucs comme ça, l'armée. Moi, j'étais tout devant, en train de diriger tout ce beau petit monde, que je disais, couchez-vous, ils se couchaient, tirez, puis ils faisaient sans doute avec leur bâton, leur échalas, voilà. Donc, un côté leader qui se manifeste depuis tout petit. Dans l'adolescence, passionné d'informatique, donc, besoin d'argent, parce que l'informatique était très coûteuse. La manière la plus simple que j'ai trouvée pour gagner vite beaucoup d'argent, c'était de maquiller des vélomoteurs. Donc, j'étais assez bon mécanique, et puis je préparais les moteurs des jeunes de la région. Et je vendais aussi ces petites herbes qui font rigoler, vous connaissez peut-être. Voilà, et qui détendent apparemment. Je n'ai pas tellement consommé moi-même par contre. Positionnement contre Dieu très clair, le catéchisme réformé super pénible, surtout pour le pasteur, parce qu'il en a vraiment pris plein la tête, vraiment. On était une équipe de sauvages, et puis une des premières choses que j'ai faites d'ailleurs quand le Seigneur m'a amené tout près de lui, c'était d'aller demander pardon à mon pasteur. D'abord, je l'ai reproché en disant, mais pourquoi tu m'as jamais dit que Jésus était mort sur la croix pour moi? Vraiment, je me suis fâché avec lui, hein. Il m'a dit, mais regarde, on prend le manuel du catéchisme. Regarde là, c'est marqué. Regarde là, c'est marqué. Là, c'est marqué. J'étais pas prêt. Je ne l'ai pas vu, hein. En attendant le catéchisme, c'était une période difficile pour le pasteur. Pas mal de questions existentielles malgré tout, qui étaient là dans ma vie. Un certain respect, je pense, des choses de Dieu. Une personne qui était assez dirigeante dans l'adolescence, vers 16, 17 ans, 18 ans. Pas tout à fait 18 ans. J'avais un groupe, un gang, une espèce de gang, ou une gang, comme ils disent au Canada. Dans la région d'Avranches, une quinzaine de gars, 7 filles, sont tous amenés à la foi, une fois que je me suis converti, de force. C'est-à-dire, soit tu te convertis à Jésus-Christ, ou alors tu quittes le gang, donc on te casse la figure. Oui. L'Église catholique l'a fait par moment, cette méthode, ça fonctionne. J'ai proposé ça comme extension au cours alpha, mais ça n'a pas été accepté. Pas mal de troubles à l'école. Souvent, le directeur me convoquait dans son bureau, mes parents aussi, ils en avaient marre d'aller visiter le directeur. Mais j'avais des excellentes notes. J'avais de la facilité à l'école. C'est ce qui m'a un petit peu sauvé, tiré l'affaire, je peux dire. S'il n'y avait pas les résultats, je pense que je me serais assez vite fait évacuer du truc. Cheveux longs, groupe de death metal, confrontations nombreuses. Il y a des photos qui traînent. J'essaye de les trouver toutes avec les cheveux juste là. J'ai rien contre les cheveux longs, hein, d'ailleurs. Mais les premiers chrétiens que j'ai rencontrés, eux, oui, avaient beaucoup, beaucoup contre les cheveux longs. On m'a dit, tu coupes tes cheveux. Et puis je l'ai fait.
Du coup, ça n'a pas repoussé.
Avec la barbe, j'ai du potentiel, avec le reste, il faut oublier, je pense. Enfin, ça change. Une évolution. La pente était assez glissante, je crois. Et puis, il y a trois amis qui me parlent de Jésus pendant un cours jeune tireur. Donc, j'aime passionné d'armes, j'ai toujours une collection d'armes. Je n'ai plus, mais j'avais. Et puis, j'aimais bien tirer. Ils m'ont invité à un cours jeune tireur. Et eux avaient rencontré Jésus. Et ils m'ont parlé de Jésus. Et puis, ça a commencé vraiment à me transformer. Un concert chrétien, Koinonia, vous connaissez peut-être, qui m'a énormément touché. Ma famille a fait beaucoup de musique. Alors, pas que du death metal, hein, bien d'accord. Mes parents n'ont jamais tellement voulu faire du death metal avec moi. mais quand même, on faisait du jazz ensemble. Et puis, le bassiste, Abraham Laboriel, vous connaissez peut-être, qui fait des sauts comme ça, puis qui prêche l'évangile. Voilà, il m'a transpercé le cœur, en tout cas, pendant cette soirée-là. Et c'est pendant une soirée de Serge Tarasenko, en 88. Personne, avec les amis avec qui on est allé, personne ne comprenait ce qu'il disait. C'est un physicien nucléaire, un gars qui parle vraiment. J'ai réécouté la cassette, j'ai eu de la peine à comprendre. Mais sur le moment, j'avais le décodeur, quoi. C'était hallucinant. Vraiment, je sentais que chaque parole, c'était pour moi. Je n'avais pas encore compris que Jésus était mort sur la croix pour moi, mais je me suis avancé à l'appel et j'ai pu accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie. Premier pas comme nouveau-né, comme bébé spirituel, hein, avec des langes spirituelles et tout. Mes parents paniquaient. Alors, ils ont été rassurés en voyant que j'évoluais gentiment vers le bon sens. Enfin, ils pensaient réellement que c'était fichu. Franchement, ils pensaient que c'était, que c'était peine perdue. Et puis là, avec l'intervention de Jésus dans ma vie, il y a vraiment des choses où ils ont vu Jésus-Christ. Vous connaissez ce passage de Hébreux 12, 14 qui dit que sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Et en fait, on le prend souvent dans le sens que si je ne me sanctifie pas, ben, je ne verrai pas Jésus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mes parents ont vu Jésus au travers de ma sanctification à moi. C'était révélateur pour eux. Et cette année après ma conversion, mes parents se sont aussi engagés avec Jésus. Ils sont pris plein la poire. Hein. J'ai prêché, rentrant de cette soirée, j'ai prêché, j'ai pas arrêté pendant 7 ans de leur remplir la cafetière. Ils connaissent le message de l'évangile. Je pense que c'est un excellent entraînement pour moi. C'est bien qu'ils résistent un peu, sinon ça aurait été trop court comme entraînement. Révélation progressive, ça commençait par un cœur qui battait pendant une soirée avec Serge Tarasenko. Gentiment, Jésus est devenu mon ami, on s'est rencontrés, il s'est vu Jésus mon sauveur, etc. Et finalement, ça a grandi. Toute cette influence de Jésus-Christ dans ma vie n'a cessé de grandir, donc ça continue encore à l'heure actuelle. Et le soir de mon engagement, eh bien, j'ai eu cette conviction un jour de servir le Seigneur à plein temps. Alors, bonne nouvelle, on est tous à plein temps pour Jésus, peu importe si on est dans un job séculier ou pas. Il n'existe pas de temps partiel, il n'existe pas de stage dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de bal à blanc non plus dans le royaume de Dieu. Tout est pour vrai. Et c'est exactement là-dedans qu'on se trouve tous aujourd'hui aussi. 19 conversions de ma classe sur 22 élèves, 19 qui se sont convertis. Certains sont convertis sous la menace, ça a bien fonctionné. Et d'autres, je ne me souviens plus, parce que j'étais complètement bourré. Le lendemain matin, je me suis réveillé, et puis le gars chez qui j'ai passé la nuit, je ne savais même pas que j'avais dormi là-bas, il me disait, mais extraordinaire ce que tu m'as raconté hier soir, merci beaucoup, est-ce que tu peux juste me redire? Je dis, mais je t'ai dit quoi hier soir? Je suis vraiment désolé. Alors là, peut-être aussi, une extension d'alpha à prévoir. Ma sœur se convertit 3 mois plus tard, et mes parents 7 ans après. Grosse question, pour moi, c'était toujours comment devenir mature. J'étais dans une région où il n'y avait pas d'église évangélique. Il n'y avait aucune église évangélique il fallait aller à Neuchâtel, à Fribourg, ou alors à Yverdon, pour rencontrer, peut-être Estavayer déjà, mais c'était déjà un peu plus loin pour moi. En fait, j'étais assez rapidement devenu leader de 3 groupes de jeunes qui avaient été démarrés dans la région du Vuy, Avranches, Bavuy, Vuy, et puis Cudrefin. Et puis, mon côté leadership a été perçu, et puis j'ai rapidement pu prendre des responsabilités dans ce contexte-là. Mais j'avais aussi 3 copines en même temps. Alors, pas au même endroit. Une en Suisse allemande, une en Suisse romande et une en Belgique. Parce que sinon, c'est trop compliqué pour les agendas. des chutes fréquentes, des évangélisations alcoolisées, des temps dans le désert, des hauts, des bas, toujours avec cette certitude que voilà, faut pas lâcher Jésus, mais en même temps des luttes incroyables, hein, parce que j'ai vécu tout un tas de choses avant de rencontrer Jésus, et puis c'est pas des habitudes qu'on met de côté comme ça facilement. Des camps, des projets, des questions nombreuses, une soif réelle était là, une nourriture qui était consommé sans modération, c'était la Bible. On m'a offert une Bible à cette soirée avec Serge Tarasenko. Et je peux vous dire, je ne l'ai pas lâchée, cette Bible. Je la tenais dans la main, je l'ai retrouvée, il y a les traces de mes doigts dessus, parce que je dormais avec. Et je m'endormais avec en lisant, je la fermais, je dormais dessus. Un matin, je me réveillais, j'allais à l'école dans le bus, je lisais. Dans le train, je lisais. J'étais chez le médecin en train de me faire une radiographie, je lisais. Il m'enlevait le plâtre, je lisais toujours. Alors, ce n'était pas au même moment, enfin voilà. Il y a eu une période où il y a eu telle soif de la parole de Dieu que j'ai mangé, j'ai pas lâché ça. Et je pense que c'était vraiment un cadeau de la part de Dieu. Je souhaiterais maintenant, des fois, avoir cette même ardeur, cette même soif, cette même faim de consommer la parole de Dieu. J'ai beaucoup de plaisir à la lire, c'est vrai. Mais des fois, je dois me forcer aussi à le faire. Alors que là c'était un besoin vital. C'était comme si je mange pas, je sèche, quoi. Ça va plus, quoi. 3 ans après ma conversion, je rencontre mon épouse, Francine, mon actuelle épouse, Francine, et on se plante. On couche ensemble, on fait des bêtises, etc. Voilà. Dieu agit en moi, il y a des guérisons, des délivrances, des restitutions. Je lui ai ramené pas mal de choses dans des magasins de la région. Des demandes de pardon à faire à mes enseignants, tout le corps enseignant d'Avanche a pu me rencontrer un jour, enfin voilà, les uns après les autres. J'ai demandé pardon pour mes attitudes et tout ça. Certains ont compris, ont été touchés, d'autres ont dit, mais toi, de toute façon, je ne crois pas, tu ne peux pas changer, c'est pas possible. Sur les 19 conversions, il en reste exactement une à l'heure actuelle qui est engagée avec Dieu, c'est moi. Voilà, les méthodes, voilà, ça fait peut-être aussi quelque chose. J'ai pu amener pas mal de monde à Jésus, mais finalement, vraiment très peu en tenue. C'est juste quelques éléments de témoignage que je voulais donner pour finalement se poser la question. J'ai parlé dans ce témoignage d'une classe quasiment entière qui a fait un temps avec Dieu, des chutes fréquentes, des temps de désert. Mon couple, où Dieu a dû interpeller, intervenir pour corriger, il l'a fait au travers, très astucieusement, au travers de ma soeur et mon beau-frère qui étaient sur l'Anastasis au sud de l'Afrique, quelque part. Ils ont reçu dans la prière qu'ils devaient nous avertir qu'on devait arrêter de faire ça. Alors, ils ne le savaient pas, ils se sont dit, bon, ben, en tremblant, ils ont téléphoné à Francine, ils ont bien fait, parce que moi, j'aurais dit non. Et puis, elle a eu la sagesse de nous communiquer bien les choses, elle a pu corriger, on a pu revenir. Donc, il y a souvent eu des écarts, mais finalement, après, le Seigneur a trouvé un moyen stratégique pour ramener les choses dans le droit chemin. Également, des convertis qui ne tiennent pas sur la durée. Et la question que j'ai envie de poser, mais qu'est-ce qui a manqué, finalement? D'après vous, qu'est-ce qui a manqué?
Un coach.
Mm-hmm. Ouais. Je dirais la dimension de parents spirituels. On parlait de bébé.
Bah oui, si on parle du bébé, quelque part, d'ailleurs, des parents. Ouais. Mais moi, j'ai un papa spirituel. Il s'appelle Serge Tarasenko. Et puis, il est parti le soir même. Ouais. Orphelin spirituel de la première heure. Mm-hmm. Si on peut dire. Je suis guéri de ça. Enfin, je ne dis pas avec amertume. Hein. Mais c'est une réalité. Hein. Il y a des personnes qui enfantent. Et s'il n'y a pas derrière des parents qui adoptent, eh bien, il y a des enfants spirituels qui restent sur le carreau, effectivement.
Tu avais une zone de vulnérabilité, parce que tu as parlé d'être un peu leader de 3 groupes de jeunes, mais à qui tu rendais des comptes, ou dans quel cadre, finalement?
Bah, à Dieu. C'est la réponse qu'on me donne souvent quand je pose cette question. Franchement, personne, non. Non,
ça, je pense que ça fait une différence aussi.
Ça fait une différence, hein. Un cadre dans lequel on peut vendre. Oui. Il y avait après, on a implanté une église plus tard, oui. Il a fallu l'implanter avant. Enfin, après, je dis.
Ouais. Oui, un référent, enfin, quelqu'un en face à face.
Mm-hmm. Une personne qui a un droit de regard sur ma vie, qui peut parler de ma vie. Ouais. Ouais, qui peut m'interpeller.
En fait, on revient au verset que Jésus nous demande de faire des disciples et pas les convertis.
Oui, c'est ça. Et ce qui s'est passé avec moi, c'est que je me suis converti, puis après, pouf, catapulté dans un environnement où il n'y avait pas, justement, tous ces éléments qui viennent d'être cités là, qu'on appelle ça coach, parent spirituel, finalement, peu importe la terminologie. Mais de fait, il a certainement manqué une compréhension de ce que c'est que vraiment un disciple. Alors, en lisant la Bible, je l'ai découvert. mais c'était tout seul quelque part. Et la Bible, elle est quand même, c'est juste pas un petit feuillet comme ça, où en 2 semaines on a fait le tour. Ça prend du temps. Alors vous avez le temps de faire des erreurs, vous avez le temps de faire des bêtises, vous plantez magistralement à de nombreuses reprises. Mais aussi, certainement, le deuxième élément, c'est une compréhension de ce que l'Église est une famille. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on trouve un nombre impressionnant d'images pour l'Église. Par exemple, Ecclésia, rien que le mot Ecclésia, il provient de l'assemblée des anciens qui se rencontraient hors de la cité. Les chrétiens ont repris ce terme Ecclésia pour dire que c'est l'Église. Hein. Donc c'est un terme piqué, en fait, l'Ecclésia. Mais après, il y a par exemple le corps. Le corps, c'est une image, dans 1 Corinthiens 12, on trouve cette image du corps. L'Église est un corps avec des membres qui sont connectés les uns aux autres. Il y a l'image de l'Église armée, elle est plutôt présente dans l'Ancien Testament, mais on trouve encore dans Éphésiens 6 le fait d'avoir un équipement, des armes, tout ça. Donc on est incorporé dans une armée malgré tout, etc. Il y a toutes, l'épouse, etc. Il y a plusieurs images qui parlent de l'Église, mais je pense qu'une des images qui parle le plus explicitement, le mieux, sur comment vivre un discipulat au quotidien, c'est l'image de la famille, le fait que l'Église est une famille. Et je n'ai pas compris, moi, que c'était le cas. Et je n'ai pas non plus compris de ce fait que j'étais un bébé spirituel et que j'avais besoin de papa et de maman spirituelle. Ou de maman spirituelle, ça dépend des situations. Volontiers.
Est-ce que le premier point, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre royaume de Dieu à la place de disciple? Parce que disciple n'est pas un but.
Non,
royaume
c'est sûr.
Est un but.
C'est oui, c'est juste.
Un but devant. Et disciple est le moyen pour aller dans ce but, vers ce but.
Absolument. Voilà. Donc ça serait un niveau d'abstraction supplémentaire, une vue d'ensemble encore plus grande. Ouais. Le fait de parler de discipulat, de disciple, de manière un peu explicite comme ça, ça nous permet de bien focaliser, mais évidemment, rappelons-nous que ça se passe dans le contexte du royaume, comme on l'a aussi entendu à plusieurs reprises pendant cette conférence. Absolument, ouais. N'hésitez pas à intervenir, hein, je continue un peu. Un piège que j'ai envie de démasquer d'entrée, je l'ai compris un peu tardivement, mais dans Matthieu 16, Jésus dit, je veux bâtir mon église. Il s'adresse à Pierre, Matthieu 16, 18, il parle à Pierre, il dit, mais tu es Pierre, et c'est sur toi que je veux bâtir mon église. C'est Jésus qui le dit. Et dans un peu plus loin, au chapitre 28, il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans la réalité, ce que je rencontre, c'est qu'on met beaucoup d'énergie plutôt dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on bâtit l'Église, on met beaucoup d'énergie à bâtir l'Église, à la construire, groupe de jeunes, œuvres comprises, hein. Pour moi ça fait un tout, je ne sépare pas les œuvres et les Églises d'ailleurs, et à l'inverse, on laisse Jésus s'occuper de nos convertis, nos enfants spirituels, et on les donne quasiment en stabulation libre à notre pasteur, ou à notre couple de pasteurs, ou à notre groupe d'anciens, ou peu importe qui, mais on les donne quasiment en adoption dans les endroits dans lesquels... on pense qu'il y a des personnes qui peuvent être de bonnes ressources. Et c'est le cas, c'est des personnes de bonnes ressources, mais simplement, ça déborde de partout. Hein. Si par exemple, en tant que papa organique de 2 enfants, tout d'un coup, on m'en amenait 30 autres d'un coup, il faudrait vraiment que je montre beaucoup d'amour à Dieu pour pouvoir le faire. Je suis allé visiter des orphelinats il y a quelques jours en Éthiopie, là, et je peux dire, il y a une rangée de 300 enfants sur une couchette comme ça, côte à côte, pas une séparation. Et puis, ils ont 8 décès par jour. Pas parce qu'ils sont malades ou comme ça, mais simplement par manque de nutrition. Certains bébés passent entre les gouttes. Ils leur donnent les biberons, mais après, certains, ils n'ont pas la force pour les tenir. Et après, ils meurent au bout d'un certain temps. C'est juste hallucinant. Hein? Et des fois, ça me fait penser à cette dimension de l'Église où on pense que tous les paroissiens, si on peut dire comme ça, tous les membres sont un peu couchés sur une banquette comme ça. Et puis certains, je ne pense pas qu'ils vont vraiment pouvoir vivre une croissance réelle. Ils vont recevoir de la nourriture, mais souvent de la nourriture qui n'est pas adaptée. Parce que dimanche matin, voilà, on ne prêche pas seulement pour les bébés convertis, on prêche aussi du steak des fois pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Voilà. Donc il y a une inversion à mon sens. On a comme inversé cette réalité-là. J'étais en 2004 avec Kuno et quelques autres, j'étais au Bangladesh, et puis on a rencontré un gars qui est à l'origine d'un people movement. C'est un mouvement de conversion qu'on n'arrive plus à contrôler. Les églises s'implantent toutes seules, ça échappe complètement à un contrôle possible de la part des humains. Et ce gars qui est à l'origine, c'est un commerçant, ça, bon Dieu lui avait dit, voilà, tu donnes 10% de tes revenus comme dîme, et en fait, moi, je te demande de faire l'inverse maintenant. Tu gardes le 10% et tu donnes le 90%. Et il a donné les 90%, et ça a permis de financer une traduction nouvelle d'une Bible en bangla, et ça a amené à des centaines de milliers de musulmans à se convertir. On a pu rencontrer ce gars sous couvert, il était déguisé, on l'a rencontré dans un hôtel, il a cherché par la police, donc ce n'est pas quelqu'un de persona non grata très sérieusement au Bangladesh. Et puis on a posé la question, moi je posais des questions du genre, oui, comment est-ce que tu fais quand le prophète, et là comment est-ce que le berger réagit quand le prophète vient puis donne des paroles à tes brebis? Il regarde avec des grands yeux, il dit, je ne comprends pas la question. Ok, bon, ben, c'est peut-être pas en anglais qui n'est pas assez bon, désolé. Puis après, je pose une autre question, mais comment est-ce que le couple pasteur, berger, apôtre et prophète travaillent ensemble pour faire des implantations qui durent, etc. C'est un fondement dans la parole. Puis il regarde avec des grands yeux de nouveau, il dit, mais je suis désolé, je ne comprends pas la question. Puis arrêtez avec vos questions, moi j'ai compris une seule chose. Moi, je fais des disciples et Jésus, il construit l'Église. Et c'est de cette inversion qu'il parlait. Hein. Moi, je posais des questions sur la construction de l'Église, comment bien gérer l'Église. Et puis, j'étais dans le faux film sur ce moment-là. Mais lui m'a répondu avec une simplicité et avec une preuve à l'appui dans son terrain. Des centaines de milliers de musulmans rencontrent Jésus-Christ au travers d'une traduction quand même de la Bible.
Donc, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Tu peux juste répéter.
Alors lui, ce qu'il m'a répondu, mais arrêtez de me poser des questions compliquées. Moi, je fais des disciples et Jésus, il construit l'Église.
Merci.
Alors, pour ceux pour qui la construction de l'Église est une passion, je vous rassure, il nous implique dans cette construction. Hein. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas comme si on va tout d'un coup se retirer et garder Jésus faire. Il nous propose de collaborer à cela, mais ce n'est pas le but premier, ce n'est pas la première chose de laquelle on est engagé. Oui.
Je pense que c'est le but du ministère, comme on l'a entendu, ouais. C'est de former des gens. Ouais. Et puis forcément, chaque ministère a une fonction différente et s'imprime, entre guillemets, sur les gens, parce qu'on a un fonctionnement particulier, sur lequel on doit se cloner. Hein, pour
ah, ouais, d'accord.
Mais à quelque part, bah, le ministère va lever des ministères.
Va équiper, va lever et permettre que les choses aillent de l'avant.
Hein. Et dans ce sens-là, ça rejoint la notion de disciple-là.
Absolument. Oui, exactement. Il y a une recoupe
entre. Si on parle de structure, on n'est pas dans le ministère.
C'est ça. Et malheureusement, il y a des fédérations à l'heure actuelle. Je fais partie de plusieurs fédérations, donc je ne suis pas du tout en train de critiquer qui que ce soit. Et bien, on est d'abord dans la structure, avant d'être dans la construction organique. De quoi ont l'air ces disciples de Jésus-Christ, hein? On se posait la question, je pense qu'il y a juste quelques éléments qui paraissent essentiels. Quand Jésus les appelle, ils proviennent de milieux très variés, très différents. Il y a des intellectuels, il y a des manuels, probablement, ils sont tous relativement jeunes. On part des fois du principe, on regarde les tableaux, puis on voit Saint-Pierre, par exemple, barbu, tout ça. Alors, j'honore les vieux parmi nous, vieux au sens africain, c'est honorifique, mais je pense réellement qu'ils avaient plutôt entre 16 et 20 ans, ces disciples-là, hein, qui travaillaient pour leur père, pour leur famille, dans les business, dans la pêche et autres. En tout cas pour certains d'entre eux, docteurs, percepteurs d'impôts, pêcheurs, etc. Ils ont été rejoints par Jésus, leur rabbin, dans leur quotidien. Nous, des fois, on pense qu'on peut rejoindre, ou Jésus peut rejoindre les personnes principalement pendant le culte du dimanche, ou bien pendant la soirée de prière, ou pendant l'activité d'évangélisation, ou pendant le cours alpha. Ben, Jésus, il a rejoint les gens pendant que ces personnes exerçaient leur activité professionnelle. Alors c'est intéressant, ça nous encourage, hein, nous qui sommes peut-être dans un job quelque part, mais on peut se dire, ben voilà, c'est exactement l'endroit où Jésus a rejoint ses disciples à lui. Est-ce que ce ne serait pas aussi pour nous un endroit dans lequel on peut rejoindre des personnes que le Seigneur aimerait nous confier en disciples là? Dès le départ, Jésus les a appelés disciples. Ils n'ont pas dû faire le CMS, le certificat de maturité niveau 4, je ne sais pas trop quoi, pour être tout d'un coup appelé disciple. Ce n'est pas un grade, c'est un état. On est disciple et on le reste, c'est-à-dire apprenant, enseigné, enseignable, qui apprend. Ils sont passionnés de pouvoir transmettre tout ce qu'ils ont reçu. Et là, je pense que la culture hébraïque aide vraiment. Quand un rabbin étudie la parole avec deux de ses étudiants rabbiniques, eh bien, le dernier élément de leur temps d'étude en commun, c'est que ces étudiants, ils doivent dispenser cet enseignement à au moins trois personnes de leur entourage, avec enthousiasme. Et ils le font vraiment volontiers. Ce qui fait qu'il y a une multiplication qui est induite simplement par la culture d'enseignement. Cette passion, elle me manque un peu, hein. Cette joie, cette ferveur de transmettre les choses. Je pense qu'il y aura une multiplication, quelque chose de... Il me semble que pour nous, alors on est des vaudois, peut-être la plupart d'entre nous, ou certains en tout cas, alors on est peut-être un peu sage, hein, d'une certaine façon. Peut-être dans certaines cultures, le fait de tout de suite donner plus loin, ça se passe plus facilement que chez nous. Mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Dans Jean 1, 1 Jean 2, vous avez trois cibles, trois personnes, trois groupes de personnes qui sont ciblées par Jean. Alors c'est dit d'une manière un peu mélangée comme ça. Hein. C'est Jean qui dit « Je m'adresse à vous, petits enfants, jeunes gens, parents. » Et puis après revient à jeunes gens. Je ne vais pas entrer trop dans le détail sur le pourquoi du mélange de tout ça. Il y a une raison très précise. Mais fondamentalement, on voit qu'il y a un processus de croissance qui existe. C'est-à-dire qu'il s'adresse d'abord aux petits enfants. « Je m'adresse à vous, petits enfants spirituels, bébés spirituels, on pourrait dire aussi. » Et les bébés connaissent une chose, un bébé qui vient au monde, il connaît sa maman, il connaît la chaleur de son corps, il connaît peut-être les sons qui sont liés à cet environnement-là. Et finalement, un bébé spirituel, il connaît simplement le père parce qu'il est né de lui, parce qu'il était engendré. Ensuite, il s'adresse à une deuxième catégorie de personnes, deuxième stade de maturité, on pourrait dire. Il s'adresse aux jeunes gens. Il s'adresse à eux en disant, parce que vous êtes forts, parce que vous avez vaincu le malin et parce que la parole de Dieu habite en vous. Parce qu'ils sont forts, pas parce qu'ils ont tous les dons et qu'ils savent tout faire, mais parce qu'ils ont compris qu'ils étaient faibles et puis que sans la grâce de Dieu, ils sont cuits. Et ça, c'est une révélation aussi qui doit venir. La parole de Dieu habite en eux. Je pense que l'épisode que je vous ai partagé tout à l'heure où vraiment je ne lâchais plus cette parole, c'était comme un ancrage dans la parole. Je ne dis pas que c'est complet, je ne dis pas que c'est fini, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin encore, mais ce temps-là, cet ancrage, il doit vraiment avoir lieu. Et puis, le fait d'avoir vaincu le malin, je donne des fois l'explication suivante, c'est que ça peut arriver que dans nos vies, on a comme des espèces de poignées sur nous. Par exemple, l'impureté, ou par exemple le mensonge, ou par exemple, je ne sais pas moi, la gloutonnerie, ou des choses comme ça, où l'ennemi a tôt fait de venir nous prendre et de nous secouer un peu. Hein. Et j'ai envie de dire, quand on a vaincu le malin, c'est simplement que, ça ne veut pas dire qu'on est sain, et sans reproche, etc., mais simplement ces poignées évidentes, bien visibles, ont déjà été, dans la mesure du possible, évacuées. Ça, c'est le deuxième stade de maturité. Posez-vous la question, dans votre église, si vous êtes pasteur, par exemple, où en sont les gens que je peux accompagner dans le contexte de mon église? Est-ce que j'ai avant tout des petits-enfants? Est-ce que j'ai avant tout des jeunes gens? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont plutôt entre deux? Et il y a le troisième stade de maturité qui concerne les pères et les mères. Quand dans le Nouveau Testament, il est mentionné les pères, c'est systématiquement aussi les mères. Théologiquement, c'est correct. En fait, c'est ceux qui connaissent le Créateur. Donc, à leur tour, capables de créer, à leur tour capables d'enfanter, de donner la vie. En fait, c'est des jeunes gens qui ont compris qu'ils pouvaient, en plus, donner la vie plus loin. Alors, ça peut arriver que tout d'un coup, un petit enfant donne vie, donne naissance. Ça m'est arrivé juste après ma conversion. De fait, si j'avais eu des grands-parents, ça aurait joué, parce qu'ils se seraient occupés de ces situations. C'est ce qui se passe dans l'organique. Si une jeune fille de 12 ans enfante, eh bien, elle n'est peut-être pas capable de s'assumer complètement. Et c'est les parents, s'ils sont là, s'ils sont disponibles, eh bien, qui vont intervenir. Et spirituellement, ça serait en principe la même chose. En l'occurrence, dans la situation que j'ai vécue, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de parents qui étaient là. Dans le cas normal, un disciple, il naît, il grandit et il se multiplie. Alors, la nouvelle naissance, on est bien d'accord. La croissance, on peut bien l'envisager. Mais le fait que les disciples, dans leur nature normale, c'est qu'ils se multiplient, ça c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident dans nos églises, d'après ce que je rencontre. Oui.
Ce que je trouve intéressant par rapport au côté de multiplie, si je regarde dans l'Ancien Testament, on voit que de manière organique, le couple est appelé à se multiplier, et bien on voit que la stérilité dans l'Ancien Testament était vue comme une malédiction. Hein. Ouais. On voit des femmes qui ne peuvent pas donner naissance, et je prends l'exemple de Anne qui, à un moment donné, qui crie à Dieu en fait. Ouais. C'est là que je me dis, nous en tant qu'église, comment on se comporte en fait par rapport à ça?
Comment est-ce qu'on crie à Dieu? Et on voit Zacharie qui dit, mais donne-moi un fils ou je meurs. Donc ce cri, il monte. Je peux vous le dire, c'est un cri que nous, on a, en tant que famille, organique, on a longtemps eu et on l'a toujours, parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Voilà, Dieu n'a pas dit son dernier mot, on continue à s'entraîner et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ce cri, quand on n'a pas d'enfant, on ne peut pas avoir d'enfant, ce cri dans l'organique. On apprend à le connaître. On apprend à crier à Dieu, mais donne-moi un fils, donne-moi un fils. On a eu un fils il y a deux semaines, on arrive une semaine en arrière, donc on est comblé de bonheur, vous imaginez. Alors, pas naturel, on l'a adopté. Mais ce cri dans l'organique, on l'a appris, mais on a aussi appris à le manifester, à le dire dans le spirituel. Mais donne-nous des enfants spirituels, donne-nous des bébés. On ne veut pas juste transférer des chrétiens d'une église à une autre et puis se dire qu'enfin, il y a de la croissance. Ce n'est pas ça. On veut des bébés. Oui.
Mais est-ce que ça ne serait pas plus juste spirituellement de plutôt prier, mais donne-nous des pères?
Ah ouais,
parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça qui manque, quoi.
T'as un stratège.
On est des gamins, quoi, spirituellement. Il nous manque des pères qui font des gosses, quoi.
Alors, je pense que c'est pas tout faux, mais je pense aussi que t'es déjà un père. Et puis que tu ne peux pas juste te désolidariser en disant, il me faudrait un papa. Le Seigneur te dit déjà maintenant, et t'es un papa, vas-y maintenant, et puis forme-en d'autres, lève-en d'autres, pour qu'ils soient capables, eux aussi, de se multiplier à leur tour. Ouais.
Ah, oui, je suis d'accord avec toi. C'est mon défi, puis c'est un... on commence à vivre ça à certains niveaux.
Ouais, c'est super.
Puis c'est génial.
Ouais, mais... c'est classe.
Mais ça, c'est mon rêve, ouais. Dehors des hommes. Quoi.
Absolument.
Des femmes aussi.
Ouais, bien sûr.
Il y a besoin d'hommes aussi qui sont des pères. Quoi.
Ouais. Mm-hmm. On y revient tout à l'heure, l'aspect des parents spirituels. Ça va, il fait pas trop chaud?
Moi, je
suis
chaud.
Ouais. Ah, sur le bimmer en plus, c'est trop bien. C'est bien. Il y en a qui payent très cher pour aller dans le sauna.
Moi, j'ai entendu ça, bah, les jeunes de notre église, ils nous ont dit ça, hein, je crois. C'est eux qui présidaient un culte pour passer des témoignages.
Oui.
Ils ont dit, on a besoin de vous.
Oui, absolument. Ah, il faut qu'on entende ça.
Ouais.
Et après, on est démunis. Parce qu'en tant que parents, on se dit, mais comment est-ce que nous, on peut vous amener plus loin? Parce que des fois, on se pose aussi des questions nous-mêmes, on ne se sent pas qualifié, etc. Mais je peux vous dire, une maman, je ne sais pas s'il y a, des, y a certainement des mamans parmi nous, qui c'est qui a eu des enfants, si j'ose me poser la question, ouais. Vous avez eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants?
Alors, 3 biologiques et un adopté.
Wow, 3 biologiques et un adopté. À la troisième naissance, biologique, organique, bon, l'autre enfant adopté est aussi biologique, donc c'est bien. Est-ce que vous étiez super à l'aise, c'est le troisième, je maîtrise tout, tout va bien? Non. Je ne connais aucune maman qui se dit, les doigts dans la main, ça va être facile, c'est le deuxième, ou c'est le troisième, c'est le quatrième. À chaque fois, il y a ces questions qui sont là, mais je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si ça ne va pas au niveau de la famille, comment ça va se passer, etc. Et spirituellement, c'est chaque fois pareil aussi. Quand les jeunes nous demandent, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous investir en nous? On ne sait pas si on va y arriver. Et, ça, et c'est normal, et ces craintes, je pense qu'il faut vraiment les mettre de côté le plus possible pour oser, oser prendre ces personnes contre nous et puis les amener plus loin.
J'ai deux enfants. Ce qui était intéressant avec la première, je pensais que je cadrais bien le truc là.
Ouais.
Puis c'est bon, la deuxième va arriver. Ce qui est intéressant avec le deuxième, c'est qu'il a un caractère, une personnalité qui est complètement différente. Ah, ouais. On doit tout refaire.
Et tu ne peux pas juste faire du copier-coller de ce que tu as fait avant avec ta deuxième. Ouais. Ça, c'est la perspective de l'homme. Après, la perspective de la femme, ça se passe encore plus intensément d'après ce que j'ai pu construire.
Physiquement
parlant, il y a deux, trois trucs. Un ami définissait les disciples comme ceci, c'est un gars qui s'appelle Marco Kmur, peut-être vous le connaissez, c'est un gars qui fait du discipulat à plein temps dans la région saint-galloise, un gars un peu hardcore comme ça, j'aime énormément, c'est un stratège. Il a décidé qu'il proposait à 10 personnes de son entourage de venir habiter chez lui, à mi-temps à peu près, et à l'autre mi-temps il travaille. Et chacun donne 10% de son revenu, et ça lui permet lui de vivre, ça lui permet à ses disciples de vivre, et lui il s'investit à fond dans la vie de ces personnes à plein temps. Enfin voilà, on ne pourrait peut-être pas le faire comme ça en Suisse romande, c'est stratégique, c'est spécial. Voilà. Lui disait, ça se base sur les versets de la parole chaque fois, vous pouvez les retrouver mentalement. Par disciples, on comprend des personnes qui lisent assidûment la parole de Dieu, qui entendent la voix de Dieu et qui lui obéissent. Des personnes qui en Christ règnent sur les puissances des ténèbres et surmontent les maladies et les troubles de la vie. Remplis de l'esprit, ils exercent leurs dons en aimant leur famille, leurs proches et leurs ennemis. Ils s'intègrent de manière crédible et lumineuse dans la communauté et la société. Leur caractère est marqué par Jésus et ils contribuent activement à l'établissement du royaume de Dieu en comptant sur la grâce. Ils attendent le retour de Christ et puis ils se multiplient en redonnant à d'autres ce qu'ils ont reçu. Alors franchement, c'est un peu Superman, hein, comme ça, mais c'est bien d'avoir une fois le tableau complet. Je pense que nous on a déjà un avantage par rapport à Superman, c'est qu'on sait que le slip, il se met dessous, pas par-dessus. Oui, on est déjà bien, on est en route. Je précise juste là, pour ceux qui aimeraient avoir ce petit PowerPoint après, vous pouvez sans autre le recevoir, je peux vous le donner sans autre, c'est à disposition. Mais prenez quand même vos petites notes pour les choses qui vous interpellent, c'est quand même important, hein. C'est ce qui reste finalement, c'est ce qui est important. Donc on a le tableau ici, de ce vers quoi on est appelé à grandir. Et moi je peux dire, si je prends chacun de ces éléments, je dis ok, oui, un peu plus, oui, ben, un peu plus l'année passée peut-être. Mais ça oui, je pense quand même, j'attends vraiment le retour de Christ. Et puis, je ne suis pas encore sûr que je l'attends vraiment comme je pourrais l'attendre, vous voyez. Donc, il y a vraiment du potentiel de croissance, et c'est un processus. Imaginez, vous avez toute puissance. Donc, moyens financiers illimités, moyens technologiques illimités, etc.
Vous appelez Bruce.
Bruce Tout-Puissant, exactement. Comment est-ce que vous apporteriez un message vital, urgent et mondial à toute l'humanité? des idées, vous qui êtes créatifs. Internet, exactement, ça c'est bon, ça fait déjà le tour de la Terre, donc quelque part ça va être un bon support. Hein. Parler Natel, par exemple.
Écrire sur la Lune.
Écrire sur la Lune, mais tu ne les vois pas toujours, parce que la Lune, enfin, vu que ça tourne, ça prend un certain temps jusqu'à ce que tout le monde ait lu. Est-ce que tout le monde sait lire?
Tout puissant.
Télévision.
Bah, tu parles dans la tête.
Télévision.
De chacun.
Tu parles dans
la tête de chacun.
Ok, ça serait une manière de faire, ouais.
Si tu es tout puissant.
Oui.
Je commence par un.
Ouais.
Et après, celui-là, il doit faire la même chose. Et après, le but, c'est qu'il se multiplie.
Toi, t'as lu l'Évangile, hein? Un peu, ouais. C'est bien.
Oui. Moi, je trouve ça, c'est la réponse que j'avais en tête, parce que ça ressemble à ce qu'a fait Jésus, mais c'est vraiment pas une réponse de tout puissant.
Ah non, c'est zéro. Ça, franchement, si j'avais les moyens, moi je choisirais des ambassadeurs de continents. Ces ambassadeurs de continents lèvent des ambassadeurs de pays. Ces ambassadeurs de pays élèvent des ambassadeurs de cantons, de régions, de départements, peu importe. Et eux, après, au niveau des villes principales encore, et une information, je la donne au début à ces 6 personnes sur les continents, et ça part dans tous les continents. Vous voyez, stratégiquement, on aurait des idées comme ça.
Bon, après, si tu fais le principe des dichotomies comme la scission nucléaire, tu pars d'un 1 qui se multiplie à 2, à 4, et tu fais
dans un modèle optimal, exactement. Ouais. En l'occurrence, ça ne sera jamais parfait, parce que l'un, il va peut-être s'endormir, va peut-être, voilà, peut-être décéder aussi, juste avant de pouvoir dire, etc.
C'est un bon film.
C'est un message vital urgent, on n'aurait pas le temps de former ces personnes.
Oui, ben, disons que...
Si c'est quelque chose à long terme, peut-être alors une formation, on prépare une équipe, après on place dans des endroits
stratégiques. Oui, je pense que dans une génération, on arrivera à le faire. Donc avant de voir mourir la grande partie de ces générations, on arrivera encore.
Un truc rapide.
Oui, on pourrait développer encore beaucoup plus, oui.
Statistiquement, il paraît que sur Terre, la personne la plus éloignée de nous dans un cercle de connaissances est à 8 personnes de nous.
Ah ben d'accord, 8 hop, en termes d'informatique, oui. Okay.
Mais même toi, tu sais aussi que si tu touches 2% de la population, ça influence toute la population.
Oui, c'est juste.
Alors, donc 2%, c'est pas beaucoup.
2%, c'est pas beaucoup. Ce que je voulais dire par là, simplement, c'est que Jésus est exactement dans cette situation-là. Il avait un message vital, urgent et mondial à délivrer à toute l'humanité, réellement. Et sa stratégie, ça a été de choisir 12 personnes qui ne faisaient pas partie de l'élite, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur cursus rabbinique, sinon ils seraient rabbins. Ceux qu'il a choisis, il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient rabbins, il les a choisis simplement dans le quotidien, en train de travailler dans le business familial. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'a pas forcément donné, transmis un enseignement stratégique sur les nations, etc. Il a dit une fois, allez dans les nations. Hein. Il l'a dit à la fin du job. Mais avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé 2 ans et demi, 3 ans sur les routes avec eux, à les enseigner au quotidien. Et il n'aura pas fait un programme du genre, ok les mecs, demain matin 9h15, briefing, prenez pas de pique-nique, je vais faire une multiplication, vous verrez, c'est sympa. Ensuite, on traverse le lac, je vais marcher, prévoyez une barque, parce que vous ne marchez pas encore, quoi que Pierre, toi tu verras. Ensuite, débriefing, pause, je vous retrouve le soir, on fait multiplication. Vous voyez, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était dans un quotidien, dans les choses qui simplement se produisaient au fur et à mesure. Et les enseignements étaient dispensés à 98%, alors il y avait un sermon sur la montagne, clairement, mais à 98% du temps, les enseignements étaient donnés de manière circonstancielle. Les disciples étaient en train de se dire, qui est le plus grand parmi nous? Jésus perçoit cette pensée et il donne l'enseignement qui correspond à cette pensée-là. Et il continue, vous voyez. L'enseignement arrive à point nommé à chaque fois. Et les disciples peuvent les intégrer. Et nous, on vit souvent l'enseignement d'une manière regroupée pendant 3 années ou quelques années d'études, comme ça, même plus d'années, dans l'espoir que dans la vraie vie, plus tard, on puisse se référer aux enseignements qu'on a reçus dans ce pool de formation à ce moment-là. Il y a des choses qu'on a quittées. Il y a des choses que, manifestement, on a laissées de côté. Et Jésus, à la fin de son travail avec ses disciples, il leur a dit, ok, maintenant, à vous, faites des disciples aussi, et il est parti. Ok, il leur a donné le Saint-Esprit pour que ce soit possible. Sinon, je pense que ça aurait été difficile. Moi, je trouve intéressant de réfléchir, finalement, à cette stratégie, au côté stratégique. Les gens stratégiques parmi nous, vous vous posez peut-être la question, bon, ok, il faut que je me retienne un peu dans mes stratégies, peut-être que j'aurai, pour mettre les choses en place avec mes stratégies humaines, ou peut-être inspirées aussi par moments, pour justement ne pas oublier complètement la stratégie que Jésus a proposée en son temps.
Mais il y avait quand même Paul.
Paul?
Ouais.
Oui, dans quel sens?
Bah, pas, lui, il n'avait pas été un disciple de Jésus qui a vécu 3 ans avec lui.
Non, c'est juste.
C'est de lui qu'on a une grande partie du Nouveau Testament.
Absolument. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a... Oui, mais c'est un disciple, si on peut dire, enfant spirituel après les disciples qui étaient en place. C'est-à-dire qu'il a été accompagné, il a reçu. Alors, il connaissait énormément de choses parce qu'il était actif dans l'autre sens. Le Seigneur l'a retourné comme une crêpe. Il a passé 3 jours vraiment en intensité forte. Et je crois que Dieu équipe des fois des personnes d'une manière très particulière. Mais je suis sûr qu'il s'est aussi frotté après aux autres disciples à Jérusalem pour finalement être discipulé, pour recevoir... Peut-être pas sur les routes autour de ces quelques kilomètres carrés, mais finalement en contact avec les disciples. Donc il a été discipulé. Oui.
Ce qu'on oublie des fois avec Paul, c'est qu'entre sa conversion et son début de ministère, il y a eu presque 15 ans. Aussi, ouais.
Hein. Il a eu le temps d'être brassé, malaxé.
Le disciple-là, je pense qu'il
y a. Alors dans ma Bible, il y a juste 3 lignes. Hein.
Ouais. C'est ça qui nous floue dans les actes, c'est que des fois, on sort 2 lignes et puis il y a 10-15 ans d'écart. Quoi. Ouais.
Et aussi, Paul a pris la même méthode. Il a dit à Timothée, prends les gens qui vont être responsables pour les autres.
Il a parlé de Timothée, mon fils légitime dans la foi. Donc, il a bel et bien perçu cette paternalité. Cette paternité. Exactement. De Timothée 2, 22. Exactement. Ouais. Le contexte dans lequel ça se passe, et je pense que c'est là où on se fait piéger des fois aussi, c'est que, dans ma perception, c'est que réellement la chose qui démarre tout, c'est la prière, c'est la dimension de la prière. Je ne suis pas, franchement, plutôt un homme d'action, mais je ne suis pas vraiment un prieur, le gars qui est contemplatif, qui aime aller se balader, qui s'arrête dans la nature, puis qui adore Dieu. J'aimerais être plus comme ça. Mon épouse est comme ça, et puis je lui demande de m'affecter le plus possible pour que je puisse le devenir davantage. Mais je sais que c'est dans la prière que les choses démarrent. Et ensuite... Quand je demande à Dieu, quand je m'adresse à lui, et puis qu'au fur et à mesure, il me télécharge, il me download ce cœur pour les perdus, qu'il me le donne de plus en plus, eh bien, je vais commencer à évangéliser. Et j'ai remarqué, je ne suis pas un évangéliste type, vraiment pas, mais je suis d'accord d'ouvrir ma bouche quand c'est le temps de le faire. Et quand j'ai cette passion pour les perdus, je me retrouve souvent à parler de Dieu sans même avoir choisi de le faire. Tout d'un coup, je suis en train de parler de Dieu, je n'ai même pas réalisé. Vous voyez, ça se passe tout seul. C'est quelque chose qui est une continuité simplement de cette vie de prière qui déborde sur finalement une bouche qui s'ouvre et qui dit « Eh mais malheureux, va pas voir ce rebouteux. Franchement, moi je suis prêt à prier pour toi. Jésus-Christ, il a autre chose. » Ou bien ça, enfin, c'est des choses que j'ai pu vivre ces derniers temps. Et l'évangélisation se met à tourner dans la mesure où la roue de la prière tourne également. Nous, ce qu'on fait souvent dans nos églises, c'est « Ok, week-end d'évangélisation, un projet, ting, et on démarre l'évangélisation. » Et après le week-end, toum, on arrête l'évangélisation et puis on est bon pour un moment. On est une église qui évangélisons. Le problème, c'est qu'on n'a pas initié ça dans la prière, ce qui fait que la roue suivante ne commence pas à tourner. Et là, en fait, le point de connexion, c'est un fardeau réel pour les perdus, hein, le point de connexion. Mais la roue suivante qui doit commencer à tourner, c'est la roue du discipulat, parce que l'évangélisation a amené des bébés spirituels. On dit des fois, pour rigoler, avec Pierre, il y a eu un évangéliste, 3000 conversions. À l'heure actuelle, il faut 3000 évangélistes pour une conversion. C'est un peu triste. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je sais que les choses se passent aussi. Mais très souvent, c'est parce qu'on n'a pas démarré par la prière. Parce qu'on a fait une activité d'église. On a fait de l'évangélisation en activité d'église. Et ensuite, on va faire du discipulat en activité d'église. Parce que le Seigneur nous envoie... Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils sont convertis. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau, c'est trop bien. Et après, on se dit, c'est vrai, c'est les bébés spirituels. Faisons un cours de disciples. Et ces disciples vont apprendre 15 versets par cœur. Est-ce qu'ils sont plus disciples après? Je ne suis pas convaincu. C'est bien qu'ils connaissent 15 versets par cœur, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait d'eux des disciples matures qui vont pouvoir se multiplier à leur tour dans la vie des autres? Je ne pense pas trop. Et la roue qui continue à tourner, par exemple, ça pourrait être, et là le point de connexion, c'est la parentalité spirituelle, il y a des bébés qui naissent, et finalement, ça pourrait être une des roues suivantes, c'est peut-être l'implantation de l'église, parce qu'on déborde partout. On a des modèles communautaires qui sont adaptés, qui sont multipliables. En fait, cette roue commence à tourner, et si on écoute Dieu, eh bien, on va être tout d'un coup en train de parler de Jésus à des personnes. Et il va nous donner des bébés spirituels, c'est dans notre cœur, ce cri monte, mais donne-nous des fils et des filles, Seigneur. Et on ne va pas les laisser sur le trottoir, ces bébés spirituels, parce qu'on a compris que tout seul, je vous ai donné un exemple tout au début, au travers de mon bout de témoignage, j'aurais pu gagner 10 ans. Si vous m'aviez discipulé, on aurait gagné 10 ans. Alors vous, voilà, le corps de Christ, quoi. Si l'Église avait une notion de parentalité spirituelle, et que moi j'ai compris ce que c'est qu'un disciple, on aurait gagné probablement du temps. Mais le disciple là, il commence à tourner, et on fait disciples qui grandissent en maturité. Et parce qu'il y en a beaucoup, et parce qu'on est trop, on a des gros problèmes pour trouver de nouveaux locaux, et bien c'est des bons problèmes. Alors locaux ou pas, hein, nous, certains font l'église dans la maison, d'autres font l'église dans des centres, et puis je pense qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Une autre manière de représenter ça, c'est de dire justement que c'est un processus global, un seul processus global, et au cours du temps, eh bien, on avance gentiment dans une couche, dans une activité qui est justement l'activité de la prière. Et on grandit là-dedans. Ça commence tout petit. Moi, je sais que je ne suis pas encore complètement au bout dans ce domaine. Je suis encore en train de grandir, c'est super. Et on continue, et on y va, et on entre dans la deuxième couche, qui est la couche justement de l'évangélisation. Ce qui passe de la couche de la prière vers l'évangélisation, c'est un cœur pour les perdus. C'est un réel fardeau pour les perdus. On continue encore dans ce processus, c'est toujours le même processus, on n'a pas quitté, hein, on n'a pas morcelé. Eh bien, il y a tout d'un coup les formations de disciples, parce qu'ici, il y a des bébés spirituels qui sont nés. Et on continue encore, on entre dans, par exemple, l'implantation d'église, ça pourrait être autre chose, parce qu'il y a plein de ces disciples qui sont devenus matures et qui sont prêts à être envoyés pour faire la suite. Hein. Vous comprenez, la problématique qu'on a, c'est souvent que ces quatre éléments, ils sont abordés séparément dans nos contextes d'église. On en a fait des activités d'église, autant de la prière, autant du disciple, de l'évangélisation, autant de la formation de disciples, autant de l'implantation d'église. Il y a des mouvements d'église à l'heure actuelle qui disent « on veut implanter tant d'églises d'ici tant de temps ». Comment est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont commencer à faire tourner la roue de la prière en se disant que le reste va suivre après? Ou bien est-ce qu'ils vont prendre une activité d'église nouvelle, stratégiquement, ok, on va démarrer des églises? Ça marche peut-être aussi, effectivement. Mais je pense que beaucoup de gens vivent l'épuisement et la lassitude. Oui. Je crois que ça va pour l'instant. Merci, je me sers mes volontiers après, t'es gentil. J'ai rencontré, on a trouvé la meilleure méthode pour lever des intercesseurs. C'est des fois difficile de lever des intercesseurs. Eh bien, on a fait une soirée avec des jeunes dans une région, à Moudon. On a rassemblé tous les groupes de jeunes d'un mois. Et puis, on ne leur a pas dit. Tout d'un coup, on les a devant nous, et moi, je dis comme ça, dans 10 minutes, on va sortir évangéliser dans la rue, les rues de Moudon. Alors, sans prière, hein, sans le truc avant, mais tac, on démarre une activité d'église. Et puis, je dis, mais il nous faudrait encore une ou deux personnes pour l'intercession qui reste ici, dans la salle. Donc, si vous cherchez à lever les intercesseurs, menacez avec l'évangélisation. Mais quelque part, je trouve que c'est triste, parce que ça veut dire que l'évangélisation est la mauvaise presse. Pardon ?
Il n'y en a plus que deux qui sortaient.
Il n'y en a plus que deux qui sortaient, exactement. Les évangélistes, les 10%.
Mais un des problèmes, c'est la continuité de ces choses. Parce qu'en effet, l'Église a fait un effort d'évangélisation, un effort d'intercession, alors que c'est chaque disciple ou chaque chrétien qui va entrer dans une disponibilité qui amène une continuité. Quoi.
Exactement.
Plutôt que des trucs qui font l'effort.
Je pense qu'il y a
soulager la fin d'effort d'évangélisation.
Je pense qu'il y a les deux mouvements. Le mouvement d'Église, il doit exister. Mais je pense que ce mouvement d'Église, il est composé d'une multitude de petits mouvements individuels qui ne sont pas seulement liés à des activités d'Église, entre guillemets officielles, hein, dans le sens mon quartier, mon voisin, mais c'est mon disciple. Moi, je peux dire, un gars qui habite à côté de chez nous, je dis déjà que c'est mon disciple, alors pas mon disciple à moi, c'est le disciple de Jésus que Dieu m'a confié. Par raccourci de langage, je dis mon disciple. Hein. Mais c'est déjà mon disciple et j'investis, il ne s'est pas encore converti, mais je m'investis en lui. De telle manière à ce que, au jour, et je sais qu'il va se convertir, eh bien, il ne va jamais se poser la question qui est son papa spirituel qui va continuer à nourrir. On est dans un même processus. Et pour l'instant, je prie beaucoup pour lui. Et de temps en temps, je peux évangéliser, parce que le Seigneur donne des petites fenêtres où on peut simplement placer quelque chose, et puis hop, la fenêtre se referme, et puis on continue. Et tout d'un coup, cette personne va entrer en discipulat, et je vais entrer en discipulat avec cette personne. Et cette personne va peut-être, pourquoi pas, intégrer une église un jour, et j'espère. J'aime bien cette parabole, cette image de l'accompagnement d'un enfant au cours de sa croissance. Je vais accélérer un peu. Le niveau de maturité. Quand je regarde la croissance en maturité d'un enfant de manière organique, biologique, je me suis occupé de groupes de jeunes longtemps, on a vu ces jeunes grandir en maturité, en âge. Il y a des étapes particulières. Hein, de 18 ans, on pourrait se dire que ça correspond à jeunesse de 24, c'est-à-dire que tu quitteras ton père et ta mère pour fonder ta propre famille. Eh bien, on voit qu'en termes de maturité, un enfant, il a une évolution qui est, on a l'impression qu'il régresse par moment. Dans la réalité, ce n'est pas vraiment une régression, mais vous pourrez imaginer ça. Et finalement, il y a un accompagnement parental qui est là, qui est, je l'espère du moins, le plus proche possible de la réalité de maturité de l'enfant. donc actif dedans. Il existe d'autres accompagnements, comme celui-ci par exemple. Et Kuno, il donne un excellent exemple par rapport à cet accompagnement-là. Sa fille Flavia devait apprendre, ou Dina, je ne sais plus, devait apprendre à faire du vélo. Et puis, elle n'était pas tellement motivée à faire du vélo. Et puis, il a dit, j'aurais pu faire de manière suivante. Viens Flavia, on va... Okay, Dina, c'était, t'as dit ?
Non, Flavia.
Flavia, viens, on va regarder. Il y a le Tour de France, c'est tip-top. Regarde, ça, c'est le Tour de France. Ça, tu les vois ? Tac, ils se dandinent et tout, ils transpirent. Ça, c'est faire du vélo. C'est bon, t'as capté ? Regarde encore un coup. C'est bon, on y va. Il la met sur son vélo, il la pousse, et bam, elle s'écrase. Mais tu fais quoi ? Lève-toi maintenant. Elle pleut partout. Et restez encore une fois, tang, tombe de l'autre côté, deuxième genou écrasé, pas possible. Et mais tu fais quoi ? Allez, viens, on retourne. Tour de France, regarde bien comme ils font. Voyez ? Et ça, c'est un mode éducatif que certains d'entre nous, on a vécu. Pas seulement dans l'organique, mais aussi dans le spirituel. Il y a des grandes pointures qu'on côtoie, qui sont parfaites, qui n'ont aucune faille. Et finalement, qui nous montre l'idéal, mais dans les faits, on n'arrive pas, ou que très peu de personnes arrivent finalement à atteindre cet idéal qui est proposé là. Hein. Alors peut-être Flavia fera le Tour de France une fois, ça m'étonnerait, mais je crois qu'elle aime mieux les princesses, les Barbie. L'accompagnement par niveau fixe comme ça, je pense que ce n'est pas quelque chose qui convient. Par contre, si je zoome maintenant sur cette zone-là, je réalise que ça pourrait ressembler un peu à ceci. Vous voyez qu'il y a des liens, des côtes. Alors ici, c'est pas l'enfant qui soutient le parent. Hein. L'orange, c'est le parent. Le jaune, c'est l'enfant. Eh bien, on voit que, par exemple, il y a soutien pour faire des leçons. Il y a peut-être certaines corrections. Je ne parle pas forcément de corrections physiques. Il y a des corrections simplement dans les attitudes qui sont nécessaires. De la prière, peut-être encore la prière. Il y a peut-être un mécanicien de l'âme qui a dû intervenir parce qu'il y a des choses qui ont dû être revues. Il y a peut-être une chaîne de prière qui a démarré. Il y a peut-être des encouragements qui sont donnés en nombre. Peut-être une délivrance qui est vécue. Peut-être des « je t'aime » à ne plus en finir, etc. Et finalement, dans cet accompagnement d'un enfant organique, vous l'avez vécu pour certains d'entre vous, et bien finalement, cet enfant va grandir et va prendre la maturité. Et ça, c'est une image toute simple, on la connaît. On la pratique, je pense. Moi, je la pratique avec mes enfants. J'essaie, en tout cas, d'être le plus proche possible de leur réalité. Pas simplement de leur montrer, « Hey, viens, monte le niveau. Vas-y, vas-y. » Et puis, ouais. Alors, on peut aller très haut, hein, après. Si je prends dans l'accompagnement d'un disciple pendant sa croissance, on peut se dire que ça ressemble un peu à ça. C'est peut-être un peu plus dynamique, c'est un peu plus vigoureux comme ça. Mais il y a aussi ce niveau de jeunes gens qui atteint, à un moment donné, en général, au bout de 2 à 5 ans. En temps de réveil, il y a des témoignages qui disent que c'est en 3 ou 4 mois que les personnes sont arrivées à un niveau de maturité impressionnant. J'ai rencontré une jeune femme de 17 ans qui dirige une église de 4000 personnes en Chine. Et ça faisait 7 mois qu'elle était convertie. Mais un niveau de maturité, discuter de la parole, c'était hallucinant. C'était juste, voilà, je lui posais des questions, des choses que je n'avais pas encore comprises. Ouais. Donc, c'est juste la classe. Et il y a eu là un accouchement spirituel, il y a des encouragements qui sont donnés, il y a peut-être une délivrance qui est vécue ici, il y a des enseignements qui sont donnés, il y a des temps partagés, on partage la vie ensemble, il y a peut-être la relation d'aide, etc., etc. Et ça ressemble finalement à un accompagnement d'un enfant vers sa croissance. Dans la réalité, ce que je vois souvent, en Suisse romande et ailleurs, c'est ceci. On a cette ambition d'atteindre ce niveau de jeunes gens, bien sûr, parce qu'on sait quand même ce que c'est en principe un responsable ou un jeune gens. On en a besoin pour nos conseils d'église, d'ailleurs, et pour nos différents secteurs. Et on pense que ceci va amener les personnes à la maturité. Enseignement. Alors, régule, hein? Super régule, et je sais qu'on est nourri par les enseignements qu'on reçoit, c'est vrai. Mais par contre, les éléments qui manquent, c'est effectivement peut-être ce chemin, comme Jésus l'a fait avec ses disciples, à marcher dans le quotidien, et d'avoir de temps en temps des éléments qui sont liés aux circonstances qui sont vécues. Hein. Je ne blâme pas les enseignants, on a besoin des enseignants. Sans les enseignants, on est cuit. Par contre, il n'y a pas besoin que de ça. Hein. Kuno disait que le discipulat, la formule, c'est quand l'enseignement rencontre la vie. Et quand la vie et l'enseignement se conjuguent d'une manière judicieuse, harmonieuse, eh bien, il y a une croissance qui en découle. Et les jeunes gens, c'est atteint à peu près là-bas en haut, vers le téléski de Vézin. comme pour une famille naturelle, on peut imaginer comme un espèce d'organigramme, un arbre généalogique, un bébé spirituel quelque part, il grandit en maturité, il devient adulte spirituel, et à son tour, il se multiplie, donne naissance à quelqu'un. Alors, j'y mets le même par simplicité, chacun est différent, on est bien d'accord, hein. Il y a aussi des dames, enfin voilà, je sais pas. C'était juste pour une question graphique, j'en avais marre de chercher des images pendant des heures. Voyez. Et ça continue, je n'ai pas de type de mieux, ça ne dérange pas. Non, je sais qu'au bout de la 6 ou 7e génération, ça devient automatique. Pas encore, mais là, je crois. Yes, ok. Bref, pour ceux qui aiment les maths, et je pense qu'il y a certaines personnes parmi nous qui ont un don dans ce domaine, eh bien, et dans le modèle idéal, on peut dire que si chacun disciple deux personnes pendant sa vie, eh bien, il faudrait 33 ans pour que toute la planète soit mature en Christ. Alors, c'est dans le modèle idéal, hein, ça veut dire qu'il y a vraiment un rendement total, que chaque, je peux dire pour les personnes que Dieu m'a confiées, que j'ai pu accompagner en discipulat, tous n'ont pas, ne sont pas multipliés de la même manière que j'aurais peut-être pu le souhaiter. Ou mieux encore, si chacun disciple une personne par année, c'est bon, vous pouvez commencer vous commencez un nouveau, et puis vous finissez ça sur plusieurs années, hein, ça peut superposer, vous avez peut-être 3 ou 4 comme ça sur un cycle, eh bien, il faudrait juste 9 ans. Pour que planète Terre soit mature en Christ. Sympa, non? C'est encourageant.
Facile.
Ouais, facile. On démarre. Non, je sais que plusieurs ont déjà démarré. Mais j'aime beaucoup cette image dans 1 Corinthiens 3. C'est l'image de l'épisode où Paul doit clarifier 2-3 trucs. Il y a certaines personnes qui se disent d'Apollos, d'autres se disent de Paul, et puis c'est un peu le foin, et Paul clarifie les choses. Il dit, voilà, moi j'ai semé, Apollos est venu arroser, mais celui qui fait grandir réellement, eh bien c'est Dieu, c'est Dieu. Et le salaire est le même pour les deux. Ça, c'est la première image. La deuxième image qu'il donne à ce moment-là, c'est moi, Paul, en tant que sage architecte, j'ai posé le fondement. Et Apollos est venu construire dessus. Et cette image, elle me parle beaucoup en termes d'accompagnement et finalement de rôle. Il y a cette image, alors tout le monde ne sera pas forcément un gratte-ciel, hein. Moi, si je suis un petit chalet suisse, ça me va aussi, hein. Le Seigneur a des appels très différents pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas, cette partie-là, elle sera plus visible au bout d'un certain temps. Mais c'est ce qu'on appelle le fondement. Et Paul dit, moi, comme un sage architecte, il met vraiment l'emphase là-dessus, il dit, mais j'ai pas bricolé, hein. C'est très sérieux ce que je suis en train de faire là, parce que je sais très bien que si je ne fais pas bien mon fondement, avec la construction qui va venir dessus, ça ne va pas tenir. Et je rencontre à l'heure actuelle des dizaines de responsables de groupes de jeunes qui très rapidement ont été amenés aux responsabilités. Waouh, tu chantes bien, bien l'idée groupe de louange. Ok, bébé spirituel, hein, mais sur scène en train de diriger la louange. Super sensibilité, don de Dieu réel, et puis vraiment des capacités impressionnantes. Par contre, un fondement complètement manquant. Et quand le vent arrive, quand le vent contraire arrive, c'est des personnes qu'on retrouve malheureusement couchées dans le décor. Il y en a pas mal. Il y a comme ce que Paul décrit, c'est son job, c'est le job de Paul, c'est de poser ce fondement. C'est ce que, dans ma compréhension, je dis vraiment, c'est vraiment la partie de discipulat essentielle. C'est ce qui m'a manqué. On m'a proposé d'être responsable de groupe de jeunes, dans le job d'Apollos. Hein. J'ai eu beaucoup d'Apollos dans ma vie, hein. Jean-Claude Chablot, un Billy Graham, un Olivier Favre et d'autres ont été des Apollos pour moi, et puis peut-être certains d'entre vous aussi. Et sont encore, et vont encore être des Apollos pour moi. Je vais être enrichi par vous, vous êtes enrichi par moi. Aujourd'hui, je parle plutôt en Apollos qu'en Paul pour vous. Eh bien, ça a permis que les choses soient visibles. Mais moi, ce qui m'a manqué dans l'histoire que j'ai racontée avant, c'est un Paul qui, comme un sage architecte, pose le fondement dans ma vie. Et ce fondement, il s'est posé et il continue encore à être révisé de temps en temps. Et des fois, quand le Seigneur élargit notre construction, il dit, ok, on va d'abord retourner un petit peu dans les fondements, on va juste réviser 2-3 de ces pierres, tu vois, elle a l'air d'être très solide, mais quand tu presses dessus, c'est un peu du caoutchouc, là. On va mettre un petit peu, injecter un petit peu de la résine, là, pour que ça soit vraiment solide. On va bouquiner tel ou tel passage, etc. Et moi, je pense qu'on a beaucoup d'Apollos. Et beaucoup d'entre nous, on est des Apollos pour les autres. Mais je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, c'est qu'on a relativement peu de Paul. Des personnes qui sont d'accord, comme des sages architectes, de prendre le temps pour construire le fondement de la vie des disciples que Dieu leur confie. Ce fondement que Paul a posé, ça c'est une image qui a été reçue avec un jeune que j'ai un disciple là chez nous. Ce gars d'ailleurs était converti depuis 9 ans. Et puis, il a fait juste 3 mois à habiter chez nous. Alors ça, c'est une manière que nous, on fait. Ce n'est pas du tout une méthode que je recommande obligatoirement, mais c'est une manière pour nous d'être en marche ensemble. On accueille les personnes chez nous et on vit ensemble, on mange ensemble, on va faire les commis ensemble, on prépare des messages ensemble, on lit la Bible ensemble, on fait du foot ensemble. Bref, on vit la vraie vie ensemble, comme ça. Et pendant un petit temps où ce gars, était, il s'appelle Jonas, était chez nous pendant 3 mois, eh bien, il dit, j'ai grandi en maturité davantage pendant ces 3 mois que pendant les 9 années de vie chrétienne précédente. Et il avait des parents chrétiens pourtant. Et il était responsable de groupe de jeunes. Et il était dans une église évangélique depuis sa naissance, un peu de choses près. Donc, il y a quelque chose d'incroyable. Quand on peut vivre ce cheminement ensemble avec Jésus, être ensemble sur le chemin avec Jésus, il y a une maturation qui se passe parce que les enseignements sont vécus quand on en a besoin, et ça fond d'une manière complètement différente. Et il a eu cette image, c'est un gars assez prophétique, et des fois, ces petits tétons hein, qu'on met dans les étagères, et on pose le plateau dessus, malheureusement, un de ces tétons a été posé un peu trop bas. On ne le voit pas, parce que ça nous arrive, vous êtes peut-être arrivé déjà, Ikea, hein, vous avez monté au moi et tout, et vous posez votre pot de confiture, ça se passe bien, ça se passe tip-top bien, tant que le pot de confiture ne se situe pas justement dans l'endroit où... Alors, c'est du PowerPoint, excusez-moi, hein, c'est vraiment de l'animation basique et tout, mais on voit un peu de quoi je veux parler. En fait, ce qui se passe, c'est que tant que les pressions, elles sont présentes, elles ne sont pas présentes au mauvais endroit, ça va, on ne voit rien. Et on a dans nos églises beaucoup de personnes qui ont des tétons mal placés, si je peux dire comme ça. Si les pressions viennent dans certains domaines, au mauvais endroit, ils vont exploser et il y aura de la casse. Et on vit, je pense, à l'heure actuelle, les pasteurs peuvent peut-être le confirmer parmi nous, on met plus d'énergie à régler des problèmes avec des personnes qui ont été mal discipulées que l'énergie qu'il aurait fallu pour les discipuler. On grille beaucoup, beaucoup de punch pour des situations, finalement, où des personnes n'ont pas eu cette occasion, n'ont pas eu le privilège de pouvoir être accompagnées et puis de recevoir un sage, un bon fondement dans leur vie. Donc, et il y a besoin d'un fondement solide pour pouvoir, entre guillemets, charger et construire. Si ce fondement est vacant, ben on pourra juste faire une petite tente, mettre une petite tente sur le terrain en question, et ce sera tout. Ce fondement, il est composé des bases de la foi, à commencer par du petit lait, et ensuite, on progresse vers du steak. Des fois, on manque un peu de sagesse, on transmet du steak très rapidement, et puis, mauvaise digestion, et après, c'est des enseignements qui ont des effets un peu bizarres. Je pense que la conversion fait partie, une bonne compréhension de la base. La conversion, qu'est-ce que la conversion? Qu'est-ce que ça produit spirituellement? Un amour pour la parole, baptême dans le Saint-Esprit, baptême d'eau, la grâce, la compréhension de la grâce, l'intimité avec Dieu, le monde invisible, la prière, marche par l'esprit, les dons, sexe, pouvoir, argent. C'est dans ces 3 domaines que la plupart des disciples se plantent tôt ou tard, et encore, la multiplication, l'évangélisation, etc. C'est des éléments comme ça qui composent finalement les fondements. Et Paul dit très clairement dans 1 Corinthiens 3, qu'est-ce que ce fondement, finalement? Il dit, c'est Christ vivant en nous. Et en fait, au travers de l'étude de ces différents thèmes, le but, c'est de rencontrer Christ. C'est de laisser Christ devenir vivant, réel en nous. Et c'est le travail que le Seigneur nous confie. Quand quelqu'un, mon voisin, il va se convertir tout prochainement, ce que je vais m'appliquer à faire, c'est que je vais lui présenter Jésus. Et on va travailler sur ces différents sujets, progressivement, mais toujours dans l'optique que Christ devienne vivant en lui. Et il va tenir le coup, le gars. Et il va grandir. Son ministère va être... Voilà, ça va se développer selon ce que Dieu a placé sur ça. J'arrive au bout. À l'heure actuelle, environ 50% des personnes qui ont choisi, qui ont fait une démarche avec Jésus, eh bien, ils abandonnent ce chemin au cours de leur vie. C'est une réalité. Et quelque part, on pourrait se dire, on aimerait bien une croissance dans nos églises. Alors, essayons déjà peut-être de garder ceux que le Seigneur a déjà amenés tout près de lui, finalement. Hein. Et je pense que le discipulat contribue réellement à cela. Une raison pour laquelle ils n'ont jamais... Enfin, une des raisons, c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais été accueillis dans une famille spirituelle. Des jeunes, je vois des fois des jeunes qui sont dans une église qui ne correspond en rien du tout à leur paradigme sociologique. C'est-à-dire que c'est des églises peut-être qui... La louange, c'est peut-être une guitare, simplement, ou un harmonium, même des fois j'ai vu. Les rassemblements sont trop longs, entre guillemets, d'après nos critères à l'heure actuelle, etc. Enfin, rien ne joue par rapport à ces jeunes, mais ces jeunes se sentent tellement bien dans cette église. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils sont dans leur famille spirituelle. Ils se sentent pleinement à leur maison, à la maison. Ils se sentent chez eux. Et à l'heure actuelle, ce qu'on essaie de construire, c'est des espèces de substituts à des familles où simplement on répond aux envies, aux besoins fondamentaux de certains jeunes. Beaucoup de lumière peut-être, beaucoup de son, des trucs flashy, etc. Et on est un peu dans le substitut de la famille, de la compression d'un esprit de famille. Souvent, les bébés chrétiens sont juste confiés à l'église et le pasteur devient progressivement comme un espèce de responsable d'orphelinat qui coordonne son truc. Il essaie de mettre tout son amour. Et puis, cher pasteur, moi, je vous encourage vraiment, vous faites un travail incroyable. Mais vous n'aurez pas assez d'amour, pas assez de temps pour partager la vie avec chacun de ses disciples. Alors, comment faire pour vivre le disciple? Oui.
Par rapport à ce que tu dis sur l'aspect des lumières, des autres trucs comme ça,
oui.
Comment tu envisages la RJ, par exemple?
La RJ, ce n'est pas une famille, c'est une rencontre de multiples tribus qui viennent célébrer ensemble.
On est d'accord, mais pour certains jeunes, c'est,
c'est leur église.
Oui. Et puis, à quelque part, il y a quand même une tendance à l'heure actuelle à foutre des leçons à point, à inviter des stars évangéliques et tout ça.
Ouais.
Et puis, je me dis qu'on creuse un fossé toujours plus large entre la réalité locale. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'ai l'impression qu'on présente un fast-food de la foi à des ados qui sont...
C'est sûr. Donc la RJ, c'est la rencontre de jeunesse. Elle était précédemment au Londres, elle est maintenant à Bulle. Il y a plusieurs milliers de jeunes qui se rencontrent là chaque année. J'ai collaboré à organiser cette RJ pendant une quinzaine d'années aussi, et j'apprécie y aller encore. J'ai grandi au travers de ces temps de la RJ. Vraiment, chaque fois le Seigneur, c'était comme une poussée, parce que ma famille spirituelle me faisait grandir dans des petites choses. Mais après, tout d'un coup, le Seigneur, il faisait une percée pendant des événements comme ça. Je crois que le Seigneur utilise ça. Mais ce n'est pas ma famille, la RJ. Ce n'est jamais devenu ma famille. Et les jeunes avec lesquels j'ai l'occasion d'aller à la RJ, ils sont pas leurrés, parce qu'ils savent très bien que leur famille spirituelle ailleurs. Mais les enfants spirituels qui n'ont pas de famille spirituelle ailleurs, ils vont être dupés. Je suis convaincu qu'ils vont être dupés. Mais d'avoir une seule occasion pour grandir par année, c'est un peu triste quand même. Et ils vont parier debout. Hein. Et d'ailleurs, ça correspond à ces flèches qui descendent, sauf que l'écart, c'est pas une fois par semaine, c'est une fois par année. Quoi.
Oui. Dans les chiffres avant, tu montrais qu'il y avait 50% de pertes. La chose qui, toute la dimension du discipulat m'interpelle beaucoup ces derniers temps. Mmh. Et ce que j'ai réalisé, en fait, où je me suis posé la question moi-même, jusqu'à quel point je suis prêt à m'engager pour la personne, pour la formation, discipuler une personne. Et ce que j'ai réalisé, c'est quand j'ai eu ma première fille qui est arrivée, en fait j'avais presque envie de la redonner à l'hôpital, parce qu'en fait elle a complètement chamboulé toutes mes habitudes. Et puis en fait, dans la question où je suis en train de m'interpeller...
Mais tu l'as gardée quand même. Non, mais parce que...
À un moment donné, je me suis dit, mais jusqu'à quel point je suis prêt à vivre des changements dans ma vie pour pouvoir former une personne pour Christ. Puis, c'est des réelles questions, en fait. Puis les chiffres qu'on voit et tout doivent nous interpeller jusqu'à quel point on est prêt à vivre des changements pour l'autre, en fait.
Si vous voulez discipler les personnes, ça va vous coûter tout. Ça va vous coûter votre vie. Et c'est marqué dans la parole, quoi. Jésus, enfin, Kuno, il a dit que Jésus l'avait dit aussi ce matin. Kuno, c'est pas Jésus. Il est plein de Jésus, mais quand même. Il a dit, mais c'est exactement ça. Ça va nous coûter notre vie. Et il y a un immense bonheur à donner notre vie pour ceux que le Seigneur nous confie. Ouais,
ça m'oublie.
Pardon ?
Des fois, on ne pense pas assez, ça.
Oui, heureusement qu'on n'y pense pas au départ, des fois, parce qu'on ne le ferait peut-être pas. Si tu savais tous les défis que ton enfant, tes enfants vont te poser, je ne suis pas convaincu que tu choisirais d'avoir des enfants. Oui, volontiers.
Je retiens de ce que tu dis qu'il faut adapter la pédagogie aux différents stades de croissance d'une personne. Maintenant, quand j'écoute Jésus dans Matthieu 28, il dit de faire des disciples. C'est le verbe principal, ensuite il donne des participes.
Oui.
Comment faire des disciples?
Oui.
Leur apprenant à retenir,
exactement.
Donc à pratiquer tout ce qu'il que je vous ai prescrit.
Oui.
Et donc, il faut connaître les ordres de Jésus pour les adapter pédagogiquement.
Oui.
Ce n'est pas toute la Bible, ce n'est pas Moïse, c'est Jésus. Et les baptiser. Maintenant, déjà, le baptême doit avoir un sens pour ces gens-là.
Bien sûr.
Et il s'agit pour nous de connaître les enseignements de Jésus.
Oui.
Et faire des disciples n'est pas le premier enseignement de Jésus. Donc, connaître les enseignements moraux de Jésus me semble être quelque chose auquel il faudrait qu'on s'entraîne beaucoup.
Oui, c'est
plus
sûr.
Plus et mieux.
Oui, c'est sûr. Et le résultat, la conséquence, si on était très proche, si on avait intégré ces enseignements moraux de Jésus, probablement on ferait davantage de disciples.
Oui, je pense.
Ouais. Il me semble que c'est une des
moins, mais mieux.
Peut-être moins, mais mieux, et jusqu'à la maturité.
Oui, c'est ça.
Absolument, je suis d'accord avec toi. Juste une formule que Jésus a utilisée pour ces 12 personnes. Je vais terminer par ça, presque. Pour ceux qui ont un rendez-vous, donc voilà, en principe jusqu'à 18h, pardon. Je vous pique encore quelques minutes pour ceux qui ont du temps. Sinon, sentez-vous libre vraiment de y aller, hein, pas de souci. Plus très long, je l'ai 3/4 d'heure. Alors, Jésus a utilisé une formule simple. Alors, je ne suis pas vraiment le genre de gars qui va réduire à une formule, mais je pense qu'elle fait sens. Le discipulat, c'est du coaching, plus du mentoring, plus la vie partagée. Je vais expliquer ces termes barbares au milieu, là, ne vous inquiétez pas, les anglicismes. Le coaching, eh bien, c'est aider à faire, c'est accompagner dans les actes. C'est par exemple développer des habitudes de foi. C'est par exemple développer une vie de prière. C'est comment est-ce que tu peux t'ancrer dans la parole? Comment est-ce que tu peux découvrir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi pour que tu les pratiques, etc. Ensuite, il y a du mentoring, c'est aider à être. C'est développer toute la partie, la personnalité. C'est le fondement en Christ. C'est tout l'aspect théologique, les connaissances. C'est la personnalité, les dons, qui je suis, etc. Mais est-ce que je suis plutôt un bâton, est-ce que je suis plutôt un introverti, je suis plutôt un extraverti? Et tous ces éléments-là que Dieu a donné, les dons, etc. qui se développent. Ensuite, la vie partagée, eh bien, c'est vivre la relation. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est là où finalement on coupe. On a souvent coupé là. On a laissé des fois, même coaching, pas toujours, mais en tout cas mentoring, on l'avait parce que la théologie, il fallait la donner. Mais la vie partagée, ça coûte trop. Et un pasteur qui a 250 personnes dans sa paroisse, mais comment est-ce qu'il arrive à partager la vie avec chacun? C'est juste pas possible. Autrement dit, la dimension de parents spirituels, elle intervient. Pardon. La dimension de parents spirituels, elle doit intervenir dans l'organique, dans le vécu avec les personnes que Dieu nous confie. C'est par exemple avoir des activités communes. C'est par exemple construire la relation ensemble. Et ça prend du temps de construire une relation. Ce n'est pas juste quelque chose qui se fait comme ça. Baisser la garde. Les personnes qui habitent chez nous, et parfois on invite des personnes à habiter chez nous. Vous savez, avant je faisais du coaching et je rencontrais les gens une fois par mois. J'en avais 37 que j'accompagnais en parallèle. Je pensais que je pouvais faire mieux que Jésus, hein. Pas réfléchir. Et finalement, ces personnes, je les rencontrais au coin d'un canapé, et quand j'avais mal à la tête, j'annulais le rendez-vous. Hein. Et puis, finalement, ces personnes me voyaient uniquement toujours dans mes meilleures prédispositions, toujours en forme, etc. Et finalement, j'étais un peu dans ce truc où il y a une ligne droite en haut, hein, dans l'accompagnement. Ce que je peux faire maintenant, c'est que ces personnes qui habitent chez moi, ils ont l'occasion de me voir le matin et je pue la bouche le matin, j'assure. Et ça m'arrive qu'avec mon épouse, on doive régler un conflit de couple. Et je peux vous dire, quand on règle ce conflit de couple, eh bien ces gens, ces disciples qui sont avec nous, qui vivent de temps en temps avec nous, ils nous observent, ils regardent. Ah, c'est comme ça que les disciples de Jésus-Christ règlent leurs problèmes de famille. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est là où les gens se plantent. C'est pas comprendre comment, par exemple, prier pour quelqu'un pour une délivrance ou comme ça, c'est technique, c'est facile. Mais comment, dans les relations, dans les défis, finalement, les choses sont vécues par ses disciples? Et donc, si on veut être dans la relation, si on veut partager la vie, eh bien, quelque part, ça va nous coûter presque notre sphère privée, j'ai envie de dire. Alors, on les invite pas dans notre chambre pour dormir avec nous, on est bien d'accord. Mais là aussi, un sujet, quand on est dans une intimité, quand les gens voient qu'on a aussi des faiblesses, eh bien, eux vont pouvoir ouvrir leur cœur. Ils vont pouvoir dire, mais tu vois, nous, la sexualité dans notre couple, franchement, c'est pas terrible, quoi. Comment est-ce que vous vivez-vous? Je dis, ouais, mais je vais pas donner les détails, mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est ça, ça, ça. Et on peut aller dans des terrains qui, d'habitude, ne fonctionnent pas. On a rencontré des personnes dans l'église dans laquelle j'étais précédemment, au moins 5 couples qui ont explosé parce que personne savait que c'était la grande catastrophe de leur sexualité, simplement. Et finalement, c'est clair, c'est du domaine privé, mais quand on vit en discipula, quand on vit en authenticité dans le contexte d'une communauté chrétienne, mais c'est des choses qui doivent pouvoir être discutées quelque part. C'est aussi parfois prendre des repas ensemble, manger ensemble. Jésus n'a pas arrêté de manger avec ses disciples. C'était ouais, il faut se gaffer. Hein, voilà, mais en attendant, ça fait partie. Et quand je regarde le discipula, finalement, c'est simplement assumer le fait d'être parent spirituel. Et puis ça veut dire nourrir, ça veut dire protéger, ça veut dire éduquer, ça veut dire libérer, etc. etc. Et ça fait partie de ces éléments, finalement, qu'on connaît déjà, sur le plan organique, et sur le plan de nos familles organiques, mais c'est pas forcément que...
Ça, c'est du sérieux, ça.
Vous avez parlé du vin nouveau, bien. C'est pas un programme de catéchisme, c'est pas un programme non plus d'église ou de groupe de jeunes, c'est pas un programme non plus de cours de disciples, c'est la vie quotidienne normale. Ça s'inscrit dans la réalité de tous les jours, tout simplement. En résumé, le discipler une personne, ça ne signifie pas lui donner un cours de disciple, aussi joli soit-il. Ça ne signifie pas non plus se cloner soi-même dans la vie d'une personne. Chaque personne a un appel spécifique. Ça ne signifie pas non plus qu'elle doit prendre tout l'héritage que je lui ai donné. Elle va prendre un bout. Moi, je suis parti à zéro parce qu'il n'y avait personne pour me donner un héritage. Je suis arrivé là. Les personnes que le Seigneur me confie, ils peuvent prendre un bout de cet héritage le plus possible. Ils vont peut-être partir de là, mais ils vont aller beaucoup plus loin que moi. Et si je ne suis pas prêt, que mes disciples me dépassent de loin dans quasiment tous les domaines, mais il ne faut pas que je fasse du discipulat parce que je vais être frustré. Mon rêve, c'est que toutes les personnes que Dieu me confie, mais qui me dépassent de loin et qui changent la face du monde, réellement. La rencontre, pas la rencontrer non plus une fois par mois sur un coin d'un canapé, c'est pas non plus réussir à la faire venir dans mon groupe de jeunes ou à l'église. Des fois, c'est ça, hein. On amène quelqu'un, moi, c'est ce que je faisais, j'amenais les gens à la fois, je les amenais à l'église, ok, c'est fait, tout, je mets une coche, c'est réglé, je passe à la suite. C'est pas ça. C'est pas s'occuper d'une personne pendant quelques semaines, mais c'est pas non plus s'occuper d'une personne jusqu'à la fin de ses jours. Les tanguis spirituels, on en a plein dans nos églises. Contrôler une personne, c'est pas non plus contrôler une personne pour qu'elle fasse ce que je désire qu'elle fasse. C'est pas ça. Le contrôle, c'est le pire antidote à la croissance. C'est une cloche de verre que vous mettez sur les gens, si vous contrôlez les gens, vous mettez une cloche de verre sur eux, et ils vont pousser un petit peu, et toum, ils arriveront à la limite de ce contrôle, et ils vont stopper la croissance. C'est pas s'occuper de 30 personnes à la fois. C'est un service qui s'arrête pas quand on devient âgé. Bonne nouvelle, la stérilité n'intervient pas, contrairement au côté organique, on change de mode, mais spirituellement, on reste fertile jusqu'au bout. Une nouvelle, ce n'est pas une nouvelle méthode, c'est simplement se centrer sur Christ. Donc, discipuler, ça signifie laisser Jésus en nous conseiller, en nous aimer, en nous accompagner, etc. C'est être passionné pour la vie de ceux que Dieu nous confie. Des fois, on nous confie des personnes franchement pas faciles à aimer. Celui-là m'a confié un ami, un voisin, franchement, il m'a défié, le gars. Mais je n'ai jamais manqué d'amour pour lui. Et c'est à ça que je vois que Dieu me l'a confié. C'est que je ne manque pas d'amour pour cette personne. Je pense qu'on a des détails. C'est poser un fondement dans la vie de cette personne, c'est-à-dire Jésus. C'est porter une responsabilité permanente. C'est pas juste, ok, je vais te rencontrer dimanche au culte, j'ai une petite responsabilité pour toi, après je t'abandonne de nouveau pendant une semaine. On porte cette personne comme nos enfants. Vos enfants, vous les parquez pas quand ils vont à l'école, ils restent vos enfants pleinement. Quand ils vont faire du foot, du sport, ils restent complètement vos enfants. C'est le dernier slide. C'est vivre un chemin de maturité avec une personne, c'est vivre un style de vie, pas juste des événements ponctuels. C'est aimer déjà avant que la personne rencontre Jésus. C'est partager la vie, c'est enseigner, c'est encourager, c'est corriger, c'est aider à établir des bonnes habitudes. C'est transmettre les valeurs du royaume de Dieu, c'est pleurer avec, c'est rire avec, c'est donner sa vie pour l'autre, c'est mourir à soi-même. Combien de fois j'étais sur ma terrasse en train de parler avec un disciple que le Seigneur m'a confié sur un sujet pour la 8e fois où il se plante, alors que je voyais d'un œil comme ça le lac de Mora avec des petits moutons comme ça, force 4 établie, pointe à 6 ou 7 et des planches à voile qui s'éclatent là-bas, alors que je raffole faire ça. Et bien je mourais sur ma terrasse et je savais en permanence que c'était juste que je m'investisse dans la vie de cette personne. Je n'étais pas à côté de la plaque. Alors voilà, je pense que on peut vivre ce style de vie de discipulat. Je ne sais pas si encore des questions. Je libère volontiers les gens. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi regarder ça en aparté. Désolé d'avoir été un peu plus long que prêt.